les amphis d'Amicus. Chaque semaine, Amicus Radio invite des professeurs de droit, des chercheurs et des professionnels à venir faire cours dans leur spécialité. L'occasion pour un fin spécialiste de relever le défi de traiter en 5 épisodes d'une question juridique essentielle. Aujourd'hui, Elsa Savouré, avocate, dessine les contours des droits de l'homme au sein de l'entreprise. Deuxième épisode, la loi sur le devoir de vigilance et autres initiatives nationales et internationales.
Bonjour, nous avons évoqué dans l'épisode précédent les principes directeurs des Nations Unies pour les entreprises et les droits de l'homme. C'est autour de ces principes que s'est développé, depuis 2011, un environnement normatif nouveau visant au respect des droits humains par ces entreprises. Alors, avant de discuter des développements majeurs, législatifs et jurisprudentiels à l'international avec Élise Groux, regardons d'abord du côté français. La France est à l'avant-garde des développements législatifs sur les entreprises et les droits humains avec la loi du 27 mars 2017 sur le devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre. Écoutons Dominique Potier, député et rapporteur lorsque la proposition de loi était discutée devant le Parlement.
Il y a 2 ans, exactement jour pour jour, l'ancienne majorité a adopté, après 4 ans de combat qui a associé les syndicats, les ONG, les universitaires, une loi qui aujourd'hui fait date et fait école dans le monde. De nombreuses universités, de nombreux syndicats, de nombreux parlements, 10 de pays étudient et envisagent d'adopter une loi équivalente à la nôtre.
Dominique Potier présente d'ailleurs souvent cette loi comme un permis de conduire dont les entreprises doivent se doter pour avancer sur l'autoroute de la globalisation.
Avec cette loi, nous affirmons qu'une autre voie est possible, qu'il ne s'agit pas de trancher entre la rétractation du monde et son extension sans foi ni loi, mais qu'il y a des voies de régulation, de civilisation qui permettent d'envisager avec optimisme le monde moderne.
Pour entrer dans les détails de cette loi, alors il faut voir qu'elle s'applique à environ 150 à 300 sociétés. Celles-ci doivent être immatriculées en France, sous une certaine forme sociale, et avoir un certain nombre de salariés. Donc globalement, il s'agit des plus grandes sociétés françaises. Ces sociétés doivent satisfaire 3 obligations de vigilance. Tout d'abord, elles doivent établir un plan de vigilance. Ensuite, elles doivent mettre en œuvre ce plan de vigilance de manière effective. Enfin, elles doivent rendre public le plan de vigilance et le compte-rendu de sa mise en œuvre effective et inclure ces 2 documents dans le rapport de gestion de la société. On voit donc que ces 3 obligations tournent autour d'un objet commun qui est le plan de vigilance. De quoi s'agit-il ? C'est un plan qui vise à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes et l'environnement. Ces risques et atteintes graves peuvent résulter des activités de la société qui établit le plan de vigilance, mais aussi des activités de ses filiales et de certains de ses partenaires commerciaux. Le plan doit contenir un ensemble de 5 mesures. Tout d'abord, une cartographie des risques que nous venons juste de mentionner. Ces risques pouvant toucher différents détenteurs de droits, c'est-à-dire les salariés, les communautés locales, voire même les partenaires commerciaux. La cartographie des risques, elle peut prendre différentes formes. Souvent, c'est un document écrit qui décrit, soit par activité, soit par projet, soit par partenaires commerciaux, justement, ces risques. Le plan de vigilance doit aussi comprendre des procédures d'évaluation qui permettent de savoir à la société si elle respecte les droits humains, la santé et la sécurité des personnes et l'environnement. Le plan de vigilance inclut également des actions adaptées pour atténuer les risques et prévenir les atteintes graves. Il doit également contenir des mécanismes d'atteinte, d'alerte et de recueil de signalements. Le but étant de faire remonter à la société qui établit le plan tout risque ou atteinte potentielle. Et enfin, le plan de vigilance doit contenir des mesures de suivi et d'évaluation de l'efficacité de l'ensemble des actions qui sont déployées dans le cadre du plan de vigilance, de sorte à s'assurer que ces actions sont effectivement suivies d'effet. Quelles sont les sanctions encourues si la société ne respecte pas ses obligations de vigilance ? On en distingue 2. Première sanction. Si après une mise en demeure, la société ne satisfait pas ses obligations de vigilance, le juge compétent peut lui enjoindre, donc on parle ici d'une injonction, éventuellement sous astreinte, de respecter ses obligations de vigilance. Deuxième sanction. En cas de dommage aux droits humains, aux libertés fondamentales, à la sécurité ou à la santé des personnes ou à l'environnement, la responsabilité civile de la société peut être engagée sous certaines conditions. D'autres pays ont également légiféré sur le sujet des droits humains dans les entreprises et leurs chaînes d'approvisionnement. Pour en parler, nous avons contacté à Washington Élise Grou, qui est avocate spécialisée sur le sujet et qui exerce entre la France, le Royaume-Uni et les États-Unis. Bonjour Élise.
Bonjour Elsa.
Élise, pourriez-vous nous présenter l'approche législative anglo-saxonne concernant les entreprises et les droits humains ?
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les pays anglo-saxons ont à ce jour adopté une approche fondée sur la prévention de l'esclavage moderne en particulier. C'est le cas au Royaume-Uni, qui s'est doté d'un Modern Slavery Act en 2015, de même qu'en Australie en 2018.
Et en quoi ces législations, Élise, sur l'esclavage moderne se distinguent de la loi française sur le devoir de vigilance ?
Tout d'abord, ces législations couvrent un champ beaucoup moins large, à savoir, ils se centrent sur l'esclavage moderne, par opposition à la loi française qui, elle, couvre un champ plus large, les droits humains, la santé, la sécurité des personnes et l'environnement. Je pense que je voudrais ajouter une note ici, c'est-à-dire que l'approche anglo-saxonne, elle est par sujet. Elle est très centrée sujet par sujet, alors que l'approche française est plus jacobine, où l'intervention de l'État est plus marquée. Les lois anglo-saxonnes sont basées sur un système de reporting. Les entreprises doivent publier une déclaration montrant quelles sont les actions qu'elles ont prises ou n'ont pas prises pour lutter contre l'esclavage moderne. La loi sur le devoir de vigilance, quant à elle, exige que des mesures décrites dans le plan de vigilance soient mises en œuvre de manière effective. On est donc bien au-delà d'un simple exercice de reporting. Enfin, le régime de sanction de la loi française sur le devoir de vigilance que vous avez précédemment bien décrit est beaucoup plus avancé.
Et on peut souligner aussi que d'autres pays envisagent actuellement de légiférer concernant ce respect des droits humains dans les entreprises, notamment la Suisse, le Canada, l'Allemagne ou encore la Finlande. L'Union européenne fait aussi de plus en plus référence aux principes directeurs dans ses textes, comme le règlement sur les minerais de conflit. Alors, à ces lois existantes ou à venir, on peut ajouter un nombre important de contentieux dans les juridictions anglophones. Ces contentieux cherchent à faire bouger les lignes. Élise, pourriez-vous nous donner un aperçu de ces contentieux et nous en expliquer les enjeux ?
Alors, ces contentieux sont nombreux, c'est pourquoi je ne vais vous présenter ici que trois cas de figure. Le contentieux au Canada, celui au Royaume-Uni et les actions de groupe et l'arbitrage. Donc, concernant le Canada et le Royaume-Uni, de grands groupes miniers qui ont leur siège au Canada et au Royaume-Uni ont aussi des filiales ou joint ventures qui opèrent dans des pays où se trouvent des ressources minières, comme par exemple la Zambie pour le Royaume-Uni et l'Érythrée pour le Canada. Dans un premier cas, en Zambie, des communautés riveraines d'une mine estimant que l'activité minière a généré une importante pollution de l'eau et les a empêchés de vivre de la pêche. Dans un second cas, en Érythrée, l'activité minière aurait été opérée par un sous-contractant local qui aurait eu recours à des travailleurs qui se seraient vus imposer des traitements inhumains, cruels et dégradants, notamment du fait de longues heures de travail, travaillant sous la menace de torture et d'intimidation qui pourraient s'apparenter à de l'esclavage moderne. Dans les deux cas, les victimes se sont donc basées en Érythrée et en Zambie pour intenter des procès. Les victimes qui étaient basées en Érythrée et en Zambie ont intenté des procès dans les pays où est basé le siège social de la maison mère de ces grands groupes miniers, le Royaume-Uni pour la Zambie et le Canada pour l'Érythrée. Les victimes cherchent ainsi à obtenir réparation de leurs préjudices au Royaume-Uni et au Canada, car elles pensent qu'elles ont de meilleures chances d'obtenir réparation en cherchant à établir la responsabilité des maisons mères de ces grands groupes miniers plutôt que la responsabilité de la filiale ou joint venture qui opère en Zambie ou en Érythrée. Ces contentieux sont très médiatisés car elles suscitent plusieurs interrogations juridiques que les tribunaux canadiens et britanniques analysent actuellement pour savoir non seulement si elles sont compétentes pour connaître de ces cas, mais aussi si la responsabilité de la société mère pourrait être retenue et les victimes indemnisées pour des faits qui se sont produits au niveau des filiales ou joint ventures. Il est à noter que la Cour suprême de la Grande-Bretagne a rendu une décision dans l'affaire zambienne pour ouvrir la possibilité d'ester en justice pour ces victimes devant les tribunaux britanniques. C'est toujours pendant devant les tribunaux canadiens, devant la Cour suprême.
Alors, en plus de ces exemples de contentieux canadiens et britanniques, vous souhaitiez évoquer deux autres types de différends.
Il existe en effet aux États-Unis, par exemple, des actions de groupe ou recours collectif, notamment de la part des consommateurs, qui s'estiment régulièrement induits en erreur par des entreprises qui ont omis de leur divulguer au moment de l'achat de leur chocolat, par exemple, que des enfants travaillaient dans les plantations de cacao ayant servi à fabriquer ces confiseries. Enfin, le troisième cas de figure, c'est l'arbitrage entre les États et les entreprises qui sont en position d'investisseurs dans ces États. Dans ces arbitrages, le non-respect des droits de l'homme par les entreprises est de plus en plus régulièrement invoqué. C'est notamment le cas dans plusieurs cas d'arbitrage concernant les activités d'entreprises minières en Amérique latine.
Alors, ces contentieux contribuent à enrichir l'environnement normatif lié aux entreprises et aux droits humains. Élise, vous voyez cet environnement comme une galaxie.
En effet, nous avons développé avec le professeur Mitt Regan de l'Université Georgetown ici à Washington et avec la professeure Béatrice Parence à Paris 8 un concept de galaxie que nous décrivons plus précisément en anglais dans un article tout récemment publié dans le Georgetown Journal of International Law au mois d'août sous le titre de « Entreprise et droits de l'homme, la galaxie des normes ». Business and Human Rights, a Galaxy of Norms. Il faut imaginer cette galaxie comme étant composée de différentes normes générées par de multiples acteurs, tels les organisations internationales, des coalitions d'entreprises, des initiatives pluripartites et des parlements. Cette galaxie comprend les normes de droit souple, des principes directeurs des Nations Unies pour les entreprises et les droits de l'homme, et les principes de l'OCDE, mais aussi des standards sectoriels dégagés par différents acteurs, que ce soit des groupements d'entreprises, des organisations internationales et des groupements multipartites. La galaxie comprend aussi des décisions résultant du contentieux et des arbitrages en matière d'entreprises et droits humains, mais aussi les contrats, les codes de conduite, les chartes éthiques des entreprises. Ces documents peuvent contenir des références aux principes directeurs des Nations Unies, par exemple. Enfin, la galaxie comprend les législations nationales existantes et à venir en matière d'entreprise et droits humains, comme la loi sur le devoir de vigilance, les Modern Slavery Acts. Elle comprend aussi des initiatives européennes, règlements sur les minerais de conflit, les directives sur le reporting extra-financier et bien d'autres. La force de ces normes est aussi, et c'est pour cela que nous avons évoqué une image de galaxie, qui a une symbolique très forte, c'est qu'elles évoluent dans un même espace, un espace qui est quand même très fluide et très dynamique, et qu'elles gravitent les unes autour des autres, se nourrissant les unes des autres, d'où l'effet gravitationnel. Pour bien comprendre le sujet des entreprises et droits humains, il est donc nécessaire, selon moi, de comprendre à la fois cette galaxie, les normes qui la composent, et aussi que toutes ces normes sont en interaction constante dans un espace où l'extraterritorialité a de plus en plus court.
Alors nous allons justement voir dans l'épisode suivant comment les normes de cette galaxie sont intégrées par les entreprises. Un grand merci Élise de nous avoir rejoints et à la semaine prochaine.
Merci.
Les amphis d'Amicus. Cet épisode des amphis d'Amicus a été préparé avec l'aide de Sarah Albertin, Camille Bloomberg et Olivia Cross, avec à la réalisation Mathieu Gasnier. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet amicus-radio.net, rubrique Les amphis d'Amicus. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission et de nous suivre sur les réseaux sociaux.